explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Depuis plus de 50 ans, il nous rapporte les contrastes, les ombres et les lumières des pays qu'il traverse et des gens qu'il rencontre. Tour à tour, reporter de guerre, photographe, documentariste, portraitiste, toute sa vie, Raymond Depardon n'a cessé de prendre la route pour observer le monde à travers l'objectif de son appareil photo ou de sa caméra. Son premier grand voyage, c'est celui qui lui a fait quitter la ferme de ses parents à 16 ans pour monter à la capitale et vivre sa passion pour la photographie. Un premier grand voyage qu'il vivra comme un déracinement. Mais ses racines paysannes, il les retrouvera ailleurs, au détour des chemins de terre d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Elles le conduiront également à réaliser 3 films sur l'évolution de la vie agricole en France. Son insatiable curiosité l'a aussi emmené loin des campagnes, des pampas et des brousses. Raymond Depardon a eu dans son viseur des grands fauves de la politique. Appareil photo en bandoulière, il s'est aussi enfoncé dans la jungle des grandes villes aux États-Unis ou encore au Japon. Que garde notre photographe baroudeur de tous ses voyages et de toutes ses rencontres? Nous allons en avoir un aperçu avec cette nouvelle diffusion de l'entretien que nous avait accordé Raymond Depardon en août 2018. Et en fin d'émission, nous retrouverons Nancy Moots de la série Nu et culotté de France 5, rebaptisée cet été Confinu et culotté. Aujourd'hui, ils nous emmèneront dans les Pyrénées à la recherche d'une grotte pour passer la nuit. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission a été préparée par Mathieu Aoued, à la réalisation Marion Lelay et Étienne Bertin, et à la technique Michel Bézikian. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Parce que nécessairement, ils viennent des endroits très, très différents. Très différents. Ils forment leur manière de voir. Chacun en fonction de son histoire.
Le photographe Sebastião Salgado dans son documentaire Le sel de la terre. Vous êtes d'accord, Raymond Depardon, il y a autant de façons de photographier qu'il y a de photographes?
Oui, sans doute. C'est vrai que j'ai eu la chance un petit peu de survivre d'abord, parce que j'ai été photographe de guerre, reporter, et il y a eu beaucoup de gens qui ne sont plus là. Mes amis ne sont plus là. Michel Laurent, Olivier Rebaud, Gilles Caron. Je ne sais pas s'ils auraient passé la transition entre photographe de professionnel de reportage, comme nous étions tous il y a 20 ans, 30 ans, à photographe de voyage. Parce que ça, c'est ça qui est un petit peu difficile, et tous n'ont pas passé. Je vois là, Don McCullin ou David Burnett, et ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils restent toujours des photographes de presse, politique, forcément. Mais moi, je sais que le voyage m'a sauvé la vie, parce qu'à un moment, dans les années 70-80, le photojournaliste s'est arrêté. Et j'avais eu cette chance d'avoir voyagé, moi qui n'étais pourtant pas prédisposé à être voyageur, parce que je suis plutôt casanier.
Oui, plutôt casanier, ça paraît incroyable, parce qu'on va se rendre compte que vous êtes allé partout, que vous avez fait énormément de voyages, mais au départ, vous le dites, plutôt introverti, timide, d'un milieu paysan, attaché à la terre, et pourtant une vie de voyage.
Oui, puis peu de connaissances en langue étrangère.
Oui. Encore maintenant, il paraît que vous avez peu de mots de vocabulaire d'anglais, et vous... Vous parlez avec 150 mots, vous avez réussi à parcourir le monde et à vous faire comprendre.
Moins, parfois, des 50 mots.
Mais, on fera pas de test.
Voilà, bon, c'est vrai que, déjà, si on a 50 mots japonais, c'est déjà pas mal, hein.
Ah oui. Effectivement. Si c'est 50 mots dans chaque pays, c'est déjà pas mal.
Donc, moi, j'ai 50 mots tout bout aussi, comme ça, j'ai des 50 mots. Non, mais c'est vrai que, peut-être, effectivement, j'étais un peu trouillard comme reporter. Enfin, je me portais pas trop volontaire pour aller. Alors, j'ai fait aussi forcément des conflits, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, beaucoup d'autres choses, et beaucoup de troubles dans le monde entier. Mais j'ai pas été me suis pas, j'aimais pas ça, la violence. J'aime pas trop la violence. Et pourtant, alors, c'est vrai qu'on, de passer, de faire des photos, des gens comme ça avec des kalachnikovs au Tchad, et puis d'un seul coup, vous arrêtez de photographier les kalachnikovs et vous passez à des photos, des nomades normales. Ouais. Je dirais une femme et un homme qui sont avec leur chameau, ouais, et que ça n'ait pas l'air exotique. Ouais. C'est très difficile parce que, faut, sans tomber dans le pittoresque, ouais, mais c'est vrai qu'aussi le fait que j'ai été photographe, reporter, journaliste, je reste toujours au fond de moi, je vois très bien le politique là derrière, puisque ces gens, beaucoup de gens souffrent d'abord, mais aussi beaucoup de gens m'accueillent formidablement bien. Ouais. Alors donc je suis un peu tiraillé, comme un citoyen du monde, ouais, et c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps en Afrique, au Moyen-Orient, peut-être un peu moins maintenant, et j'ai envie d'aller ailleurs, et je vais ailleurs aussi. Ouais. Y a tellement d'autres pays à voir. Je suis toujours aussi pour l'éloge du voyage lent, puisque c'est très à la mode en ce moment. Ouais. Voilà. Alors à pied, peut-être c'est un petit peu difficile, en vélo aussi, mais effectivement, on ne peut pas voyager comme une autre personne quand on est photographe. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'arrêter. Si on est dans un bus, on est bloqué. On voit par la fenêtre des choses formidables, ouais, donc il faut pouvoir descendre du bus, ouais, donc ça nécessite certaines choses, et moi c'est vrai que je suis très heureux en voyage, et je pense que ça m'a sauvé, peut-être, je sais pas, peut-être d'une dépression. J'habite la banlieue, et mon médecin, qui me connaît pas, il m'a dit, mais vous êtes déprimé, monsieur Depardon. Alors j'ai dit, j'ai réfléchi beaucoup, je me suis dit, je suis déprimé. Peut-être que tous les photographes, on est un peu déprimés quelque part, ouais, aussi, parce que sinon on ne ferait pas de photos.
On va noyer son chagrin en voyageant.
Voilà, alors c'est vrai que peut-être que quand je voyage pas, je suis déprimé. Mais quand je voyage, je suis sûr que je suis pas déprimé.
Ouais, c'est ça, un peu le voyage comme antidépresseur. Alors, comment la photographie est-elle entrée dans votre vie, Raymond Depardon?
Alors ça, c'est un miracle, parce que j'ai vraiment... mes parents, vraiment, c'est des gens formidables, puisqu'ils étaient nés au siècle, quoi. Voilà, vraiment, ils étaient contemporains de gens. Maintenant, après, je m'en suis rendu compte, mon père, il avait le même âge que Ozu ou Walker Evans. Ouais. Hein, ça, c'est une image comme ça. Et il était très doux. Et ils m'ont jamais, je dis toujours, ils m'ont jamais, pourtant, je, sans doute, l'aurais mérité d'avoir une paire de gifles comme ça, ce qui était assez commun à l'époque, mais ils m'ont jamais... Ils étaient paniqués, parce qu'ils se sont bien aperçus, bien avant moi, que j'étais pas fait pour reprendre la ferme.
Ouais. Alors, il y a cet événement, on offre un appareil photo à votre grand frère, oui, Jean Depardon. Oui. Lui s'en désintéresse un peu, ça l'intéresse pas. Vous, tout de suite, vous accrochez avec l'appareil. Et quand vous dites, mes parents, ils étaient formidables, c'est-à-dire qu'eux, ils ne comprennent pas bien... Quel intérêt vous avez, quelle curiosité, quelle fascination vous avez pour cet objet et les photos que vous pouvez prendre avec. Mais ils vont vous accompagner, ils vont accepter.
Oui, oui, mais ils vont même m'accompagner au Puce de Lyon. Ils vont, à un moment, même mon père va aller voir un opticien de Villefranche-sur-Saône et en disant, vous avez pas besoin d'un apprenti. Il lui a dit oui, et puis moi je me suis retrouvé, voilà, comme apprenti à 16-17 ans, à 15 ans même. Et puis là, il y avait une chance, il y avait un photographe qui était lui qui faisait le travail des photos d'amateurs à l'époque, des photos dentelées comme ça qu'on va chercher, qu'on donnait au photographe. Ouais. Il m'a appris beaucoup de choses. Et puis je suis monté à Paris très tôt, trop tôt quoi, bien sûr, ouais, mais à
16
la
ans.
Fois
16 ans, vous montez à Paris, vous parlez d'un déracinement intérieur, une sorte de plaie qui ne se refermera jamais. C'était trop tôt, ce départ?
Oui, je suis un exilé de l'intérieur. J'ai vu ça, d'ailleurs. Il y a eu des grandes émissions ici à France Inter sur les exilés de l'intérieur. Ah, voilà. J'en suis vraiment un exilé de l'intérieur. C'est vrai que c'est un choc, hein. Paris, j'étais tout seul, comme ça, bon... J'étais chambre de bonne et tout, et puis très vite le photojournaliste, à l'époque il y avait beaucoup de demandes pour ça, et pour faire des photos, effectivement. Et alors il y a quelque chose de très rationnel chez moi qui a saisi comme ça un sens que je connaissais pas. Je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui en demandaient plus que d'autres. Alors je me suis dit, bon, puisqu'ils veulent tous Brigitte Bardot et le général de Gaulle, donc le général de Gaulle, c'était plus difficile, parce qu'il a quand même une protection. Et je me suis mis à photographier Brigitte Bardot une fois comme ça. Et puis ça a valu une double page dans Paris Match. Puis on m'a envoyé en Afrique. Parce que je suis vraiment aussi, je suis tombé à la pleine décolonisation de l'Afrique. Mm-hmm. Donc je suis vraiment un photographe de la décolonisation. De Sartre, dans un certain sens, mais après que je me suis aperçu. Ouais. Donc on m'a envoyé dans plein d'endroits où il y a eu la décolonisation, les pays avaient l'indépendance, l'Algérie pas tout de suite, mais un peu après, la Côte d'Ivoire, tout ça. Et à la fois, j'étais une nouvelle génération, donc j'avais peut-être grâce à cette racine paysanne, j'étais pas trop complexé. J'arrivais vers les gens. Voilà, un peu la gueule enfarinée. Et finalement, les Africains, ils voyaient bien que j'étais très jeune, que je pouvais pas être un colon, ni un militaire. Et puis, je faisais des photos et quelque part, j'ai été sauvé par cette ruralité.
Oui, c'est-à-dire que souvent, très loin de chez vous, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, sur des chemins de terre, vous croisez des gens qui cultivent la terre et vous vous sentez une proximité immédiate avec ces gens. Vos racines paysannes d'agriculteurs, finalement, vous les retrouvez dans ces pays.
Ah oui, surtout, ça a été le choc a été en 71 au Chili. Où j'avais perdu beaucoup de photographes, dont Gilles Caron, bien sûr, et je me suis dit, le prochain, c'est moi, quoi. Ouais. Et un ami m'a emmené au Chili, c'était la première année de l'Unité Populaire, à l'aîné venait de prendre le pouvoir, le premier régime socialiste en Amérique du Sud. Ouais. Et là, il redistribuait les terres, aux Mapuches, notamment dans le sud du pays. Et là, j'ai vu que de faire des bœufs avec quelqu'un qui laboure, ça avait un sens. Donc il y avait comme ça, j'ai fait une photo. J'ai aussitôt écrit à mes parents en disant mais c'est formidable, il y a encore des labours avec des bœufs comme chez nous. Et j'ai senti que cette photo, ces photos avaient un sens géopolitique. Et j'ai eu de l'espoir en me disant mais si je faisais le tour du monde comme ça en faisant ce genre de photos, je pourrais en vivre et je pourrais avoir et les parutions et faire des livres. Ouais. Et faire des films.
Alors là, vous aviez 28 ans, hein, c'était au Chili avec ces Indiens à Mapuche, mais même plus récemment, hein, je crois que c'était en 2013, vous étiez en Bolivie, vous voyez pas loin de Santa Cruz sur un chemin une charrette avec dessus des paysans, mais très bien habillés parce qu'ils se rendent à la ville. Et vous revoyez, ça vous renvoie des flashs de votre enfance, vous revoyez votre père qui mettait son plus beau costume pour aller au marché aux bestiaux. Oui. À chaque fois, il y a cette proximité qui vous renvoie à votre enfance.
Oui, parce que habillé en dimanche, comme on dit. Oui, bien sûr, habillé en dimanche. Oui, c'est sûr. Et à la fois, je pense que j'ai une incroyable... Je suis très culotté comme ça. Ouais. Je suis timide et tout, mais j'ai pas peur. Voilà, je sais que beaucoup de mes confrères, par exemple nord-américains, qui sont des grands photographes, il leur faut des fixeurs, il leur faut des chauffeurs.
Ah, les fixeurs, c'est des gens qui viennent devant et qui disent à qui on va s'adresser, comment ça va se passer.
Il leur faut tout le temps quelque chose, des assurances, je sais pas quoi. Et moi, je pars en Afrique comme ça, voilà, du jour au lendemain, je pars en Amérique du Sud. Et quand je vois les gens comme ça dans les champs, je m'approche et je vois souvent. Le journaliste, il reste dans sa voiture, il me dit « Mais tu vas où, là ?»« Je vais voir, je vais faire photographier. » Et puis, ça se passe très bien. Ouais. Parce qu'au fond, c'est un rapport direct. C'est pas une question de voler des images, c'est une question, au fond, de faire exister les gens. Mmh. Et je crois que ça, je pense que c'est... j'ai pas peur de photographier, or j'aurais plutôt peur de photographier une jeune fille blonde dans la rue, quoi, bien sûr, et j'ai pas peur de photographier un paysan.
Ouais. Vous avez consacré 3 films entre 1998 et 2008 à l'évolution de la vie agricole en moyenne montagne en France. Vous donnez la parole à ces agriculteurs et agricultrices qui, pour certains d'entre eux en tout cas, ne sont pas de grands bavards.
Je vais boire un café, alors.
Oui, oui,
faites. Vous habitez ici depuis combien de temps ?
63.
1963 ?
Oui. Mais je suis né en face.
Oui, oui. Vous êtes né en face ?
Juste en face. Et la maison s'en fait, là. Oui, oui.
Et vous aussi, vous êtes né là, ici ?
Oui, 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 oui.
Vous êtes marié à quel âge ?
fou, moi.
Tu te rappelles?
Je m'en rappelle pas. Oh.
Le mariage a eu lieu ici?
Oui.
Oui.
Extrait du troisième film de la trilogie que vous avez réalisé hein, sur l'évolution de la vie des agriculteurs en France, Raymond Depardon. Beaucoup des agriculteurs que vous avez rencontrés étaient économes en mots. On l'entend là, hein, oui, bien non, sûr. Un sourire, on entend la soupe en même temps qui est avalée. Ça aurait découragé certains documentaristes, pas vous, hein, vous laissez pas intimider par ces silences, parce que là encore, vos parents, votre père étaient quelqu'un de taiseux.
Oui. Oui, alors ça c'est très étrange. D'abord, je crois que c'est grâce au voyage que j'ai pu faire ce film. C'est-à-dire qu'en étant ailleurs, loin de la France, loin de ces montagnes, et je me suis dit, mais je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Quoi. Ouais. Est-ce que ça serait pas de revenir un peu sur d'où je viens, qui je suis ? Et au fond, mes parents n'étaient plus là, mais au fond, je suis parti faire ce repérage et tout le monde me disait, mais ça n'existe plus, tes parents c'est fini, la toile cirée c'est terminé et l'agriculture intensive a pris le relais. À part qu'il y avait, ce que personne ne m'avait dit, il y a la moyenne montagne, et c'est-à-dire que toutes ces régions, les Cévennes, la Haute-Loire, la Haute-Saône, ils ont encore il y a des endroits qui ont 1000 mètres d'altitude, le terrain est accidenté. Et là, la culture intensive ne peut pas arriver puisque c'est trop accidenté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est peut-être pas majoritaire en France, mais c'est quand même important. Ça a été, j'ai été très découragé et c'était compliqué parce que je sais pas pourquoi. Il y avait encore du pétiniste en France. C'est-à-dire que les gens me disaient, mais voilà, c'est qu'est-ce que c'est? Mais je voyais bien que c'était des gens intéressants, en avance, notamment dans les Cévennes, où là, ça a été vraiment un reportage qui m'a demandé beaucoup de temps. On l'a fait avec Claudine, on y a passé du temps.
Votre femme?
Et tous les deux seulement. Ouais. Pas de personne, pas d'assistant. Et on est dans le livre des rockers parce qu'on a tourné en 35, en scope, elle en 5+1, et moi, voilà. Et parce qu'il fallait pas non plus les esquinter. Il fallait vraiment les filmer le mieux possible. S'il y avait une caméra, s'il y avait un objectif, s'il y avait un micro qui pour Adjani, pour Depardieu, on les prenait parce que c'était ça. Et il fallait les aimer aussi, être patient. Et puis pas rester trop longtemps non plus, pas trop lourd, parce que ce sont des gens que, vous savez, je sais qu'à un moment, ils m'ont dit, on est content de vous voir. Alors là, j'avais gagné.
Vous vous êtes dit que vous aviez gagné leur confiance. Oui. Ça a été le plus dur, gagner leur confiance?
Oui, c'était le plus dur parce que, au départ, ils disaient, mais pourquoi moi? Ouais. Et forcément, et puis, c'est vrai qu'ils parlent pas beaucoup et j'ai été obligé d'un petit peu parler, mais moi, j'avais pas envie de parler, mais j'étais, j'étais obligé un tout petit peu de filmer, et donc, c'était, il y a même des moments, je disais, Claudine dit toujours que j'ai dit des bêtises, puisqu'il y a un moment donné, un agriculteur, c'est une petite anecdote qui est assez drôle, j'ai dit, c'est tous les ans votre anniversaire.
Ah oui. Effectivement. En tout cas, vous êtes pas planté. Hein. C'est pas complètement
alors,
une erreur.
Donc, ça voulait dire que je parlais parce qu'il fallait que je parle pour pas laisser trop les silences s'installer, les vides, et je voulais pas les déranger non plus.
Vous avez aussi effectué des voyages risqués en tant que reporter de guerre. Nous allons en parler dans un instant. Raymond Depardon est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter.
J'étais ces fleurs de printemps, endeuillées d'espèces au vent, jardinière empressée, les yeux. Thank you.
mélanger les haies.
Ces murs épais, c'était Jane Birkin, bien sûr, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
J'avais envie de faire un vrai voyage, solitaire, sur ces terres millénaires. J'aime cette liberté de pouvoir descendre au hasard dans ces petits hôtels, le long des routes, de faire son itinéraire tous les jours, improvisé en fonction de nos rencontres, de nos horaires, de la lumière. Je suis seul avec mon voyage, heureux d'être seul ici au cœur de l'Afrique, au milieu du continent, loin de l'actualité, loin des événements, et pourtant au cœur de quelque chose. J'aperçois les vrais problèmes, je suis heureux de pouvoir vous montrer l'Afrique que j'aime.
Extrait d'un film que vous avez réalisé, Raymond Depardon, en 1996, Afrique, de point, comment ça va avec la douleur. C'est une expression africaine, cette expression un peu étonnante, un peu triste, oui, comment oui. Ça va avec la douleur.
Oui, parce que ils se servent du mot douleur pas de la même manière que nous. Nous, c'est un mot fort, très fort, c'est réservé à la résistance, à Marguerite Duras. Eux, ils s'en servent un peu comme, voilà, ça va, avec la douleur. Et donc, tous les jours, je sais que je suis resté longtemps au Tchad. Je suis même resté 8 mois. Et puis, il y avait des Tchadiens qui me tous les jours, ils me disaient, Raymond, comment ça va avec la douleur? Donc, je me suis dit vraiment, bon, bah, ça va avec la douleur, ça va. Mais c'est vrai que j'ai passé, donc, de 1960 à aujourd'hui encore, j'y vais souvent en Afrique. C'est l'hiver qu'il faut aller là-bas et ça m'empêche pas d'aller voir des fêtes de village en ce moment en France aussi et aussi voilà l'Afrique il faut c'est immense j'arriverai jamais à faire toute l'Afrique bien sûr mais j'y retourne et il y a beaucoup de mauvaises nouvelles on m'avait beaucoup traité d'afro-pessimiste j'aimerais m'être trompé. Malheureusement, j'ai encore plein de nouvelles. J'entends vos confrères des RFI tous les jours là. Encore une embuscade au Tibesti, mais c'est pas possible. Quoi.
C'est une région que vous connaissez depuis très longtemps. Vous y étiez déjà au début des années 70. C'est là que vous avez rencontré les Toubous dont vous nous parliez. Ils vous ont fasciné, les Toubous. Ce sont des nomades, ce sont aussi des guerriers. Qu'est-ce qui vous a plu et qui fait que vous avez passé autant de temps avec eux?
Je sais pas, ils sont comme ça, ils sont tout en blanc, contrairement aux Touaregs, tout en noir, ils sont tout en blanc, ils sont là depuis très très longtemps, puisqu'ils sont les seuls noirs du Sahara, ils sont francophones, et ils sont un peu distants, très discrets comme ça, et c'est vrai que c'est des chameliers, c'est des chasseurs, pour certains, et je les aime bien, parce qu'ils me font rire, moi, pourtant ils ont rien de drôle, c'est vrai que mon père, un peu, la dernière fois, il m'a un jour demandé, mais qu'est-ce que tu as avec ces Toubous? Et j'ai pas su lui répondre, sur le moment, et puis après, je me suis dit, après tout, et plus tard, je me suis dit, mais au fond, ils sont très proches de lui, quelque part, pas au niveau de vie, mais quelque part, parce qu'ils sont... Mon père, il était très omnibulé par son taureau, sa vache qui était malade, et eux, c'est pareil, quoi.
Ils ont les mêmes préoccupations.
Les éleveurs. Ouais. Les éleveurs, c'est à part, quoi. Et mon père était très éleveur. Et ce sont des éleveurs et qui sont très... Ils sont pas belliqueux, ils veulent pas l'indépendance. Ils veulent simplement qu'on leur apporte un tout petit peu de choses qu'on leur avait un peu promises et nous on se sent un peu responsables. C'est l'éducation et la santé. Qu'ils oublient un peu tous les régimes qui sont au sud, là. Pourquoi il y a des problèmes au Mali? Pourquoi il y a des problèmes au Niger? C'est parce que les régimes, les capitales sont en bas, bien sûr. Bien sûr, c'est plus peuplé. Mais on oublie les populations du... Alors ils sont pas très importante au point de vue population. Mais après, il faut pas s'étonner qu'ils basculent, quoi, dans quelque chose de... Et donc, les Toubous, eux, ça va, ils restent fidèles à l'état tchadien et ils passent par le français pour pouvoir parler avec les gens du Sud. Et souvent, ils me disent, mais, que j'ai beaucoup duré, comme, pour me reprocher de pourquoi je reviens si tard, quoi. Parce qu'ils aiment bien me venir me voir.
Ah oui, d'accord.
Ils aiment bien que je vienne.
Ils trouvent que vous vous mettez trop de temps entre deux voyages.
Alors, je me sens un peu responsable. Voilà, je suis non pas nationaliste français, mais je me sens un peu responsable d'un petit peu aller les voir de temps en temps.
Ouais. Alors, vous étiez allé les voir notamment entre 1974 et 1977. Ça doit être un moment fort de votre vie, parce que pendant 3 ans, les Toubous ont retenu avec eux, prisonnière hein, en quelque sorte, une ethnologue, Françoise Claustre, qui a donc été retenue chez eux au Tchad pendant 3 ans. Et vous l'avez rencontrée, interviewée. Voici un extrait de l'enregistrement de Françoise Claustre que vous avez réalisé alors qu'elle était là-bas, chez les Toubous.
Comme je l'avais déjà dit, je m'occupe aux petites tâches quotidiennes. Je lis un peu quand j'ai de la lecture. J'en ai pas eu pendant longtemps, mais je viens d'en recevoir. J'écoute un peu la radio et je prends un peu de réconfort auprès de la population qui reste bonne avec moi. Voilà. Au point de vue nourriture, pendant longtemps, je recevais des colis, je me nourrissais avec un tas de boîtes de conserve et tout. Maintenant, je vis comme les autres, mais je ne m'en plains pas du tout parce que, mon Dieu, vous savez, d'une façon générale, on mange toujours trop. Alors quand je mange à ma faim du riz, toujours du riz, mais il y a de l'huile, des tomates, il y a beaucoup de dattes en ce moment. J'ai pas du tout à me plaindre de la nourriture. Que voulez-vous que ça me fasse? Je mange à ma faim et c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. De temps en temps, d'ailleurs, on tue un chameau ou un bouc. Mon Dieu, je me plains pas du tout de la nourriture. Ça va très bien.
Raymond Depardon, dans quelles conditions avez-vous effectué cet enregistrement? Ça doit correspondre à un souvenir fort.
Oui, c'est très fort, parce qu'elle est restée 33 mois prisonnière comme ça, à pas savoir quel était son destin du lendemain. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Ouais. Donc moi, j'ai fait la vidéo des preneurs d'otages. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit, si je la fais pas, elle risque de mourir, quoi. Donc j'ai fait le go-between entre elle et les rebelles Toubou et puis le gouvernement.
Dans quel état vous étiez? Vous étiez sûr, vous aviez un rapport de confiance suffisamment important avec les Toubou pour être sûr que vous y alliez, qu'on vous laisserait repartir, que ça se passerait bien pour vous? Vous étiez aussi un peu inquiet, vous le faisiez pour elle en vous disant que vous risquiez quelque chose? Comment vous l'avez fait?
C'est-à-dire qu'en 1970, j'avais été voir un petit peu la rébellion pour voir à quoi elle ressemblait, cette rébellion, et on était tombé en embuscade. J'avais été fait prisonnier un mois. Donc je connaissais les Toubous. Ouais. Et au même moment qu'en 74, pendant la campagne de Giscard d'Estaing, j'ai vu qu'un otage et puis un autre, ils étaient deux, avaient été pris en otage. Et je me suis dit, faut aller voir, faut faire quelque chose. Et effectivement, en plus, là où, vous voyez, on entend cette voix de Françoise Claustre, c'est un endroit incroyable. C'est à Modra, ouais. C'est une palmeraie de montagne, c'est un endroit inouï. C'est un des plus beaux lieux du monde. C'est une palmeraie qui est à 2000 mètres d'altitude. Il y a des sources d'eau chaude. C'est un Éden. Et à la fois, il y avait cette femme qui souffrait comme ça. Donc, on ne pouvait pas rester indifférent. Donc, l'idée, c'était d'un petit peu de faire, faire ce que j'ai fait, l'aller-retour.
Ça a servi à quelque chose?
Oui, parce qu'elle a été libérée. Ouais. Et j'en suis très fier. Je ne sais pas si c'est à cause de moi.
Ça y a certainement contribué. Hein. Ça a permis de faire évidemment entendre sa cause.
C'est très paradoxal parce que souvent, par exemple, il y a des combattants là, des jeunes qui avaient mon âge, et à un moment donné, quand je les quittais, il y en a un qui j'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais que je te ramène de France? Je vais revenir. Ils me disent, ça me ferait plaisir que tu me ramènes un livre en français. Et je dis, ça fait des mois qu'on parle ensemble et tu n'as jamais vu un livre français. Tu as appris comment le français? Je me dis, j'ai appris avec un tableau noir, avec un maître d'école, mais sans livre français. Je suis vraiment... Et, indépendamment de ça, il faut qu'on continue. On est obligé, puisque ces gens... parle le français. Mmh. Et il le parle bien, avec plein d'humour en plus.
Ouais. Je vous propose d'écouter la voix d'une autre rencontre qui a dû vous marquer. Alors, on avance un peu hein, dans le temps. Vous avez rencontré le commandant Massoud. Hein. Vous aviez été reporter de guerre. Vous aviez décidé, après Beyrouth, après le Liban, vous décidez d'aller en Afghanistan, d'avoir peut-être un rapport plus personnel avec les acteurs géopolitiques. Et vous rencontrez le commandant Massoud. Je vous propose donc de l'entendre. Il avait été interviewé par Christophe de Pontfilly et Jérôme Bonny lors d'une rencontre pour un documentaire intitulé « Massoud, l'Afghan ». C'était en 98.
Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge.
La première chose, ça, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça, c'est que nos mujahides, tous sont c'est très courageux. Oui. Et ils sont maintenant pour la guerre, ils sont complets. Comment dire en français? Complet.
Ils sont prêts?
Ils sont prêts pour commencer la guerre ou pour continuer la guerre.
La voix du commandant Massoud, là aussi ça doit être un souvenir marquant pour vous, Raymond Depardon. Vous l'avez côtoyé pendant un mois dans les montagnes afghanes. Quel souvenir vous gardez de...
J'étais le premier à arriver à Peshawar à m'intéresser à l'Afghanistan en 78. Et j'ai été sauvé justement par le fait que je parlais pas bien anglais. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui parle français. Ouais. Et tout le monde... Et on m'a mis ce jeune étudiant qui n'était pas encore le commandant Massoud et qui est parti avec moi, qui parlait français, ce qui est assez rare de l'entendre parler français. Et j'ai fait un voyage des plus beaux du monde puisqu'il m'a tout à expliquer l'Afghanistan. On est parti au Nouristan, pas tout à fait dans sa vallée. Et on a été plein d'histoires, encerclés par l'armée rouge, etc. J'ai fait ces photos et grâce à lui, j'ai pu les ramener et passer de l'autre côté de la frontière. J'ai fait qu'une erreur, ce qui lui a valu d'ailleurs de quelques jours de prison que je regrette beaucoup maintenant parce que en fait, il y avait un Afghan en haut d'une crête sur un col et il était magnifique et j'ai sorti de ma tenue afghane mon leka et j'ai fait une photo et donc là je me suis démasqué comme étant un occidental et j'aurais jamais dû faire cette photo et là ça a bardé pour lui et pour moi mais il a été arrêté et il m'a dit cours très vite et j'ai couru dans la montagne pendant 2 jours comme ça et j'ai trouvé un camion et et j'avais même pas mes films avec moi. Et puis, une semaine après, il arrivait avec mes films. Donc, c'est vrai que j'aurais voulu le revoir. C'était un type formidable.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter les terrains dangereux, le reportage de guerre que vous avez pratiqué pendant près d'une décennie? Pourquoi un jour, vous avez eu envie de passer à autre chose?
Je pense qu'il fallait évoluer parce que tout le monde, tous les journaux s'arrêtaient. Les grands magazines devenaient s'occuper que des vedettes, du People, etc. Il y avait la télévision reprenait sa vraie place, qui était une des premières sources d'information. Peut-être que aujourd'hui, il y a toujours des informations à faire en photographie, il y a toujours plein de reportages, mais c'est plus du tout la même chose. Et j'avais envie de passer à autre chose, peut-être de revenir peut-être un citoyen comme les autres, de photographier la vie quotidienne d'un pays, de ne plus y aller par temps de guerre, ne plus photographier la misère, la violence, et de voir est-ce que j'étais un photographe? Est-ce que j'étais un bon photographe?
Vous allez quitter les terrains de guerre, mais vous ne renoncez pas à la photographie et au voyage. Il y en aura encore bien d'autres, des voyages. Nous allons continuer à tourner les pages de vos albums photos, Raymond Depardon, dans la suite de ce temps d'un bivouac.
A vine grows in the jungle like a lion flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for our own. Sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email thankfully. 5 million
silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the pharaohs, live for our own ideal. Stained glass and tarot cards can tell us how you feel. Down my over, up, down here, boosters and sailors I'll be home.
Us the Pharaohs, Maxwell Farrington et le Super Omar sur France Inter. Raymond Depardon, nous voilà arrivés dans les rues de New York. Hein, vous entendez cette ambiance que vous connaissez bien. Nous sommes au début des années 1980. En juillet 1981, le journal Libération vous ouvre ses pages. Alors, on n'est plus dans le reportage de guerre, évidemment. Là, c'est tout autre chose qu'on vous demande. C'est tous les jours une photo, une image, selon au gré de vos déambulations dans les rues new-yorkaises et quelques mots de légende. Alors, comment ça vous tombe dessus, ce projet ?
Ben, c'était difficile. Hein. Moi, j'avais jamais photographié comme ça les gens dans la rue. Donc, pas de problème pour photographier des combattants. Mais c'est vrai que je voyais bien qu'il fallait peut-être arrêter les photos avec des kalachnikovs.
Ouais.
Et photographier des gens dans la rue, les passants. Alors, j'ai eu la chance parce que New York était plutôt une ville très accueillante à ce niveau-là. Et j'ai appris à faire des photos comme ça dans la rue. C'était difficile pour moi au début. J'y arrivais pas puisque je me disais mais ça a aucun intérêt. Et puis tout doucement, j'ai photographié des choses plutôt assez pittoresques. Et l'Amérique aussi à ce niveau de tolérance, l'espace public. Comme au Japon d'ailleurs, est quelque chose qui fait partie de la démocratie. C'est quelque chose qui est important. Et ils sont peut-être un peu en avance sur nous de ce côté-là, c'est-à-dire le partage de l'espace public. Donc une photo, pourquoi pas, mais il faut aller vite, pas insister, et puis sourire, comme si j'étais un touriste au fond, et puis voir un peu au fond finalement... C'est formidable les rues de New York parce que il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais c'est vrai que ça m'a demandé une vraie mutation, une vraie transformation. Je me suis demandé qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et au fond, la générosité américaine m'a beaucoup aidé.
On le sent dans les légendes parce que chaque photo est accompagnée de légendes et on sent ce désarroi, cette façon de chercher un peu. Il y a cette photo avec une petite fille à la fenêtre d'un taxi new-yorkais évidemment, et vous écrivez ces quelques lignes en dessous de la photo. Alors, faut voir une petite fille avec des couettes et un joli sourire. Je ne saurais jamais rien de cette petite fille que j'ai croisée dans un taxi au coin de la 42e rue de Broadway. C'était peut-être la première fois qu'elle visitait New York, habituée depuis 20 ans à couvrir des histoires, libérée, je me sens un peu perdue. Il me faut réapprendre à regarder. Oui. Le photographe que vous êtes a besoin de réapprendre à regarder.
À regarder normalement. C'est ça aussi l'espoir pour tous les jeunes photographes d'aujourd'hui, c'est de faire des photos normalement au coin de sa rue ou partir à la rigueur au Japon ou à New York, mais faire comme si on était au coin de sa rue. Ouais. C'est peut-être ça la nouveauté, la modernité de c'est fantastique, c'est formidable la photo. C'est formidable parce que on rencontre les gens et à la fois on les rencontre pas, mais on les rencontre quand même.
Ce que le public a pu découvrir aussi, c'est ce talent d'auteur. Hein. Ce sont ces légendes, hein, parfois décalées, qui ancrent les photos ou parfois qui ouvrent le champ. Je vous propose d'écouter un autre grand photographe, Henri Cartier-Bresson, parler de l'importance des légendes.
Certaines photos doivent se passer de légendes, peut-être juste une indication de lieu et de date. D'autres photographies, elles doivent être situées dans leur contexte, parce que c'est là qu'il peut y avoir une tricherie. J'étais en Russie en 1955, dans un musée, et il y avait un bonhomme extraordinaire avec une barbe. Il sortait de toute la littérature russe d'autrefois. Mon interprète m'a dit « Mais ce monsieur n'est pas représentatif. » Bon, alors on se borne à faire des généralités, des tableaux d'histoire. La vérité, c'est le petit détail significatif. Il fallait préciser cette chose-là. Ça, c'est une photographie de dame en tablier dans un village, les bras croisés, en train d'écouter. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Et puis il y a le chien qui est là, ils sont tous groupés sur les marches. On ne peut pas montrer pile et face dans la photographie. Alors si on n'indique pas que ces dames sont en train d'écouter De Gaulle qui leur parle, eh bien, ça n'a pas d'intérêt. Ou ça retire beaucoup d'intérêt. C'est un plat qui n'est pas présenté complètement. Je crois que la légende doit être simplement une chose qui cerne la photographie, qui est peut-être en contrepoint quelquefois, mais tout ce qui n'entre pas dans l'appareil photographique doit être inscrit.
Henri Cartier-Bresson, alors vous êtes d'accord avec lui, Raymond Depardon, parce que certains disent une bonne photo se suffit elle-même, elle n'a pas besoin de légende. Lui dit la légende est complémentaire.
Oui, c'est ça, les deux. Moi, j'ai beaucoup été aidé plutôt par Barthes, parce que Barthes, en fait, il disait qu'un texte peut être ancrage ou relais. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai plutôt pensé... Quand j'ai fait ces photos pour Libération, j'étais gonflé parce qu'il y a un moment donné, j'ai fait une photo à Park Avenue, qui est quand même l'avenue la plus riche du monde. Et au fond, et puis je sais pas pourquoi, en allant au labo, j'ai pensé à mes parents qui faisaient les foins à la ferme du Garret. Et j'ai écrit, voilà, c'est la période des foins à la ferme du Garret, ouais, sur cette photo de Park Avenue. Ouais. Et au fond, voilà, peut-être.
Mais
que...
c'est ce qui a fait tout le sel de cette série.
Oui,
c'est ce regard décalé et peut-être un peu amusé sur ce que vous voyez. Un grand merci à vous, Raymond Depardon. Oui. Restez avec nous dans un instant. Nos amis Nance et Moots de la série Nus et culottés de France 5 nous emmènent dans les Pyrénées. À tout casser, c'était Johnny Hallyday et Jimmy Page sur France Inter.
Bonjour.
Des vêtements,
on cherche des vêtements.
Les deux voyageurs s'en vont en direction des Pyrénées. Et comme on est parti de vraiment rien du tout, ça c'est des vêtements qu'on s'est fabriqués avec des affaires qu'on a
trouvées
dans le conteneur.
On va voir ce qu'il nous faut.
Ah bah c'est
gentil. Oui, c'est ça.
Et bah allez.
Un café, un chocolat chaud.
Asseyez-vous, hein. Non, mais même des chaussures, vous avez pas.
Ah bah non.
On a rien.
C'est tout nu.
Mais c'est un rêve, c'est quoi là?
Ah oui, exactement. On va réaliser un rêve qui est de dormir dans une grotte, de partir sans argent et sans vêtements. C'est pour s'en remettre à l'inconnu et puis faire des rencontres comme on est en train de faire là.
Mais là, vous allez dormir où ce soir?
Eh bien, chez l'habitant, on va trouver un endroit où il y a une chambre.
D'accord. En combien vous chaussez?
42.
Et moi, 43.
Oh, ben, déjà, on a une paire de pompes en 43.
Oh c'est oui!
Mais c'est pas vrai! Oh, des chaussures en montagne!
Nos deux amis nus et culottés vont à nouveau sévir ce soir sur France 5. Bonjour Nancy Moutz.
Bonjour.
Alors nous vous retrouvons tous les mardis du mois de juillet, car le temps d'un bivouac est partenaire de la nouvelle saison de Nus et culottés, rebaptisée cet été Confinu et culottés, car les tournages ont eu lieu pendant le confinement. Vous nous rappelez la règle du jeu de vos films, Moutz?
Tout simplement de partir avec rien, c'est-à-dire pas de vêtements, pas d'argent, et simplement notre petite caméra, notre matériel pour filmer, et la confiance que le lien avec les gens va nous permettre de rejoindre notre rêve.
Et l'épisode que l'on découvrira ce soir, il a été tourné où et quand?
Alors, il a été tourné au mois de février, si je me souviens bien, dans les Pyrénées-Orientales.
Ouais. Et on entendait là cette famille qui vous accueille à bras ouverts.
C'était dingue.
Vous tapez à leur porte et puis presque normal. Hein. Bah oui, vous êtes à poil, bah on va vous chausser. Vous faites du combien? Ça se passe étonnamment bien parfois.
Et c'est toujours dingue parce qu'on pourrait se dire tiens, au bout de ça, c'était notre 35e voyage nu et culotté. On pourrait se dire qu'on s'y habitue et en fait non. Ça reste un miracle d'avoir des gens qui vous leur portent, qui nous offrent à manger, qui nous offrent des vêtements. Et je ne me lasserai pas d'être étonné de combien l'âme humaine peut être généreuse, même en période de crise.
Et cette famille dans laquelle vous atterrissez, là encore, vous avez votre capacité à déclencher des confidences. Parce qu'au début, c'est assez euphorique, tout se passe dans
oui,
la joie
léger,
et l'allégresse.
Ouais.
Et assez rapidement, par une question anodine. En plus, vous grattez pas spécialement tout de suite avec des questions très profondes. Mais les gens se sentent en confiance et la fille de la famille vous dit qu'elle a eu des problèmes de poids, en tout cas de regard des autres dont elle souffrait et elle se met à se livrer. Et ça finit tout le monde en larmes autour de la table dans la famille.
Ça, c'est dingue parce que plein de fois, on nous a dit « Non mais les gars, vous partez en voyage à poil, enfin vous vous compliquez la tâche. » Et en fait, aujourd'hui, je dirais « Ben non, justement, on se la simplifie.
Ouais. »
Dans le sens que quand nous, on se met dans cette posture de vulnérabilité, on dégage quelque chose qui met en confiance parce que on n'a pas les poches pleines de couteaux et d'armes et de je ne sais quoi. On est à poil. Donc, les gens sentent bien qu'on n'est pas méchant et qu'on est, ils peuvent vraiment sentir notre intention qui est d'être dans la rencontre. Donc, quand nous, on a fait le premier pas de se mettre à poil physiquement, les gens font le pas aussi de leur côté pour qu'on se retrouve au milieu de se mettre à poil, non pas physiquement, mais du coup, dans leur cœur et à livrer ce qui est précieux, ce qui est vivant dans le moment pour eux.
Et il y a presque un tour de magie qui s'opère très souvent dans vos films. Vous demandez de l'aide, comme vous dites, hein, Moutz. Au départ, vous êtes vulnérable. Les gens sur qui vous tombez sont un petit peu surpris, savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, comprennent pas bien, mais donnent un coup de main un peu parce qu'il faut donner un coup de main. Et très rapidement, les rôles s'inversent. C'est-à-dire que déjà, vous êtes quand même assez généreux, vous êtes assez bricoleur, assez partant pour aider, pour donner des coups de main. Et puis, on sent que à la fin de la rencontre, vous leur avez apporté au moins autant, si ce n'est plus, que ce que vous étiez venu chercher. Et là, en l'occurrence, avec cette famille, il y a une séquence, c'est très court. La mère, avant de vous quitter, avant de remonter dans sa voiture, elle vous dit... Vous êtes des grands malades, je me suis noté ces phrases, vous êtes des grands malades, mais franchement, rien que ce que vous avez fait pour Emma, c'est la fille de la famille qui a eu quelques difficultés dans son parcours, donc rien que pour Emma, merci, c'est extraordinaire. Et elle a la voix qui tremble, donc elle s'éternise pas parce qu'elle est vraiment très émue, mais on se rend compte que vous lui avez fait un cadeau infini en fait à cette dame.
Ouais, ce que les gens réalisent pas, et nous aussi on le réalise pas au début, c'est que quand ils nous reçoivent chez eux, ils s'attendent pas à ce que nous, on les reçoive dans notre cœur. Mmh. C'est-à-dire qu'on va être tellement disponible le temps qu'on va passer avec eux pour être à l'écoute, pour être présent. Et dans cette présence, il se passe des miracles, en fait. Quand les gens se livrent, souvent, ils se délivrent aussi.
Alors, il y a des petits miracles, il y a de l'écoute, il y a de la psychologie, il y a aussi de l'action hein, dans votre documentaire.
Ah, oui.
Déjà, parce qu'il y avait une mission, comme toujours, une mission. Cette fois-ci, vous vous étiez fixé quoi comme but?
Et l'objectif était d'aller passer une nuit dans une grotte.
Ouais. Dans les Pyrénées.
Dans les Pyrénées, quelque part.
En altitude, à moitié dans la neige, parce qu'on est en plein hiver, évidemment.
Voilà, histoire de se trouver un truc rigolo à faire.
Ouais.
Et bien sûr, on s'est mis en chemin sur cet objectif. Et comme en contexte de Covid, on a cherché à limiter les déplacements en autostop pour ne pas être trop proche des gens, On a marché sur le GR10, qui est donc le circuit de grande randonnée qui traverse les Pyrénées. Et oui, ça nous a amené à l'une des plus belles frousses de notre vie de voyageur, parce qu'on s'est pas perdu, mais en fait, on trouvait pas la trace d'après.
Ce qui s'appelle se perdre.
Bah, non, parce qu'on savait où on était sur notre chemin.
C'est
mais
le côté positif.
J'étais pas perdu, j'étais juste, je savais pas où j'étais sur la carte.
Bah, mais c'est qu'en fait, on pouvait pas avancer en confiance vers l'avant, puisqu'on voyait pas les signes, les fameuses traces rouges et blanches qui sont caractéristiques des GR. Et du coup, on était en pleine montagne, dans la brume, la nuit approchait, et on n'était pas du tout équipé pour passer la nuit dehors.
Mais c'est ce que j'allais vous dire quand même, parce que au départ, ça part un peu comme une blague potache, on part à poil ou sous-équipé, on prend ce que les gens nous donnent, mais quand vous êtes seul dans la montagne, en plus il y a une brume, il y a un brouillard épais, alors ça fait des très très belles images, mais franchement, vous savez pas où vous êtes, est-ce que c'est pas un peu risqué ?
Ouais, bien sûr. Dans ces moments-là, on se rend compte vraiment que cette mise à nu, c'est un vrai risque. Même si on essaye de le maîtriser, on veut pas se mettre en danger. Je me souviens, la première règle qu'on s'est donnée avec Moutz quand on a commencé à faire ces voyages, c'est on revient vivant.
Oui.
Donc si à un moment donné, on se met en danger, c'est pas par recherche, de mettre notre vie en danger. Mais par contre, dans ces moments-là, je me souviens, là, cette brume, cette neige, c'était terrible de voir autant de beauté.
Ouais.
Et en même temps, autant de fragilité. Il y a tout ça qui coexistait. Et moi, j'ai ce souvenir, c'était juste magnifique. Et en même temps, on savait pas si on allait passer la nuit, si on allait arriver à un lendemain. Parce que passer la nuit par 0 degré dans la neige, habillé comme on l'était, c'était juste pas possible.
Mais dans ces moments-là, vous continuez, vous avez les caméras qui marchent, vous continuez à filmer, alors qu'effectivement, on sent que ça rigole plus tellement. Alors comment on... Il n'y a pas un moment où on dit, bon bah là, en fait, on joue plus, on retrouve le chemin et on rallumera les caméras plus tard.
On pourrait éteindre les caméras, ça ne changerait rien, le chemin n'apparaîtrait pas plus facilement. Donc
non, mais est-ce que le cœur est encore à faire un film documentaire quand on en est là?
Alors, il y a eu différentes époques, mais je dirais qu'aujourd'hui, oui, d'autant plus, parce que c'est aussi notre responsabilité que d'emmener l'histoire jusqu'au bout. Les gens nous font confiance à nous suivre dans nos aventures. Et alors, quand on est au moment du tournage, les gens ne sont pas derrière leur écran. Mais il y a quand même ce truc-là de... Allez, il faut qu'on traverse.
Il y a des moments où vous vous engueulez, où ça part vraiment en vrille et où la caméra, vous décidez de ne plus l'allumer.
Ouais, non, c'est marrant, on en parlait à midi là. Il y a vraiment ces moments-là, c'est des moments qu'on documente très peu, qui font partie de notre jardin secret. Ces moments d'ajustement entre nous, surtout parce que on est aussi des amis en dehors de ces voyages. Et du coup, des fois, il y a des conflits qui peuvent arriver ou des tensions qui sont en lien avec notre histoire personnelle. Et donc, ils sont assez peu compréhensibles, qui n'auront pas trop leur place dans le film. Et puis aussi parce que c'est une grande intimité, quoi. Mais de plus en plus, on filme ça, on reste présent avec les caméras dans ces moments de tension. Et c'est très intéressant parce que souvent, les tensions dans un binôme de voyage, puis même dans n'importe quel binôme, quand elles sont traversées, conscience, c'est très fertile.
En tout cas, tout ça a tenu et pour le meilleur. Pour savoir si vous l'avez trouvé, cette grotte dans les Pyrénées pour y dormir, eh bien, il faudra regarder ce soir sur France 5, Confinu et Culotté, le nouveau nom donc de Nu et Culotté. Et c'est un partenariat avec le Temps d'un Bivouac. Et Nancy Moutz, vous savez où on ira la semaine prochaine, mardi prochain?
On va dans les Landes pour faire un grand Landart sur la plage.
Bon, eh bien alors à mardi prochain.
Ouais, à mardi.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.